débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, Parlons Sport.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast de Parlons Sport spécial sport de combat. Une fois n'est pas coutume, c'est pas Gilles qui présente l'émission, mais je serai accompagné de Julien Mathieu. Salut Julien.
Salut Samy, salut à toutes et tous.
Avec nous, notre consultant spécial sport de combat, l'encyclopédie John Lone. Salut John.
Salut, bonjour à tous.
Et notre invité, il nous fait le plaisir d'être avec nous en studio, l'ex-champion de France de boxe anglaise des poids moyens, Rachid Hachoui. Salut Rachid.
Salut Samy.
Au sommaire de l'émission, on reviendra sur la trilogie poids lourd entre Deontay Wilder et Tyson Fury, le dernier acte ayant eu lieu le 9 octobre dernier à Las Vegas. Dans un deuxième temps, on parlera de Tony Yoka et de sa place dans l'échiquier mondial des poids lourds en boxe anglaise. Et enfin, on abordera du MMA et la prochaine grande affiche qui va opposer le français Cyril Gann et Francis Ngannou le 23 janvier 2022. Pardon. C'est parti pour notre spécial sport de combat. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. I'm the best ever. Fighting Holyfield is a right here. Quand l'équipe des 130 kilos dit certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. He's crying in his corner. I've never seen anything like this. If you win, you win. If you lose, you still win. It's unbelievable. T'as pas mal, c'est pas mal. T'as pas mal, c'est pas mal. It's over. I'm gonna show you how great I am. La trilogie qui a été énorme ces dernières années pour la boxe mondiale, pour les poids lourds, Tyson Fury contre Deontay Wilder. Alors l'épisode 1, je vais vous rappeler messieurs avant qu'on puisse débattre là-dessus. L'épisode 1, c'était en décembre 2018. L'anglais Tyson Fury est alors au plus bas, à 60 kilos de trop. Il est plongé dans l'alcool et la dépression. Et Deontay Wilder, l'américain, lui tend la main pour un combat explosif. Joshua, lui, l'autre anglais qui est champion du monde poids lourd l'ignore complètement. Le combat est assez dantesque, mais Wilder, qui est invaincu alors, 39 KO sur 40 combats, enfin l'a envoyé au tapis plusieurs fois et aurait pu gagner ce combat. Match nul, décision unanime des juges. L'épisode 2, c'est le 19 février 2020. Le rematch avec une démonstration de Tyson Fury qui envoie plusieurs reprises Deontay Wilder au tapis. Deontay Wilder complètement dépassé lors de ce combat. On rappelle qu'avant ce combat, il n'avait jamais goûté au sol lors d'un combat officiel. Fury gagne donc par KO. Et l'épisode 3, c'était le 9 octobre dernier, 9 octobre 2021, un combat exceptionnel où le Gypsy King, hein, c'est le surnom de Tyson Fury, qui prend encore une fois le dessus sur Wilder. Cette fois-ci, c'est unanime, rien à dire, c'est une victoire par KO et avant la fin donc des 12 rounds. Fury reste invaincu chez les poids lourds et c'est lui la nouvelle star mondiale. En sachant qu'entre-temps, Joshua, lui, n'a pas su performer à son juste niveau. On va commencer par toi, John. Que penses-tu donc de cette trilogie au vu donc maintenant qu'on a chaque partie, chaque épisode de cette confrontation ?
Alors moi je vais donner un avis rapide et simple. Je veux surtout entendre l'avis d'un spécialiste du domaine, hein, du sport de combat, de la boxe anglaise, notre invité. Hein. Je pense que ce combat nous a montré clairement qui était le patron de la division des poids lourds actuellement. Tyson Fury, sans aucune contestation possible. Hein. Il l'a gagné deux fois avant la fin du temps, avant la fin des 12 rounds. Et avec la manière à chaque fois. Hein. La deuxième fois, il a carrément roulé sur son adversaire après le premier combat. Lors du deuxième affrontement, il a roulé sur son adversaire, comme il le disait avant combat. Hein. Et lors du troisième affrontement...
9 octobre dernier, donc.
Oui, il y a à peine quelques semaines. Un combat, franchement, un combat extraordinaire. Hein. Un combat qui
a tenu toutes ses promesses.
Qui a tenu toutes ses promesses. Qui, en tout cas, moi, quand je l'ai suivi, m'a clairement fait vibrer.
Ouais, t'avais l'impression que c'était des highlights, en fait, pendant 10 rounds.
Franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais vu de boxe, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe, si on le met face à ce combat-là, il va tout de suite aimer la boxe.
Ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, pour ce que tu disais, par rapport à ce que tu disais sur les deux victoires de Fury, honnêtement, même le premier combat, il y a match nul, en fait. Donc au final, c'est plus sur trois rencontres, il y a 2,5 pour Fury, quelque part.
Ouais. Oui, même si, John, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais sur le premier combat, si c'est une victoire de Wilder, il n'y a pas vraiment de contestation possible. Le match nul, est-ce qu'il est vraiment mérité? On rappelle qu'il envoie quand même Fury deux fois au tapis. Et Rachid...
En fait, il y a beaucoup de gens déjà à la base, mais moi, en l'ayant vu, moi, pour moi, enfin, avant ce fameux knockdown subi par Fury au dernier round, au deuxième round, beaucoup de gens voyaient Fury vainqueur.
Donc, ouais.
Voilà, c'est vraiment le knockdown qui a fait que voilà, il y a eu match nul.
Et toi, John, si tu dois garder un seul de ces trois épisodes,
le troisième combat, le plus épique.
Le plus épique.
Un combat ontologique pour moi.
Pareil, exactement. Ouais.
Ouais, idem.
C'était dantesque.
Ouais. Il y a eu, il me semble, 4 ou 5 knockdowns en tout.
Ouais. Ouais.
Ça faisait longtemps qu'en boxe poids lourd, on n'avait pas eu une trilogie comme ça, qui arrivait à son terme au final. Ouais. Et du coup, quels enseignements ont tiré? En sachant qu'avant, en 2017, donc le premier épisode de cette trilogie, c'est 2018. En 2017, comme on l'a dit, Fury est au plus bas. Hein, ouais. C'est l'alcool, c'est peut-être la drogue, ça, ouais. Les tentatives de suicide.
En fait, Fury, ce qu'il faut savoir, c'est que la catégorie des poids lourds, il y a un des frères Klitschko, peut-être ça vous dit quelque chose.
Bien sûr.
Qui a régné sur la catégorie pendant 10 ans.
Vladimir,
exactement. Ça veut dire que pendant 10 ans, à peu près de 2005 à 2015, les poids lourds, enfin la catégorie des poids lourds, c'était une catégorie morte. En fait, les gens ne s'intéressaient plus aux poids lourds parce que Vladimir Klitschko, c'était un très bon boxeur, mais il était soporifique. C'est-à-dire qu'il gagnait, mais voilà, c'était pas avec la manière et c'était très stéréotypé boxe
d'accord.
De l'Est.
Il n'était pas spectaculaire.
Il n'était pas du tout spectaculaire, voilà. Et quand Fury l'a boxé, ce qu'il faut savoir, c'est que Fury, à l'époque, il avait à peine 27 ans. Quand il l'a boxé, Fury, et quand il a gagné, grâce à lui, au fait, ça a permis, parce que Vladimir Klitschko avait plusieurs ceintures, donc le fait que Fury ait gagné, ça a permis, au fait, de débloquer la catégorie.
Je crois qu'il en avait trois. Hein.
Il en avait trois, exactement, et son frère avait la quatrième.
Ouais.
Et du coup, bah voilà, en fait, ça a relancé la catégorie des lourds, donc.
Sauf que pour la petite histoire, je crois que les deux frères Klitschko
ne se sont jamais battus.
Ils apparemment, ont fait une promesse à leur mère.
Ouais, voilà. Leur mère voulait pas qu'ils se rencontrent. Mais du coup, voilà, ce qui fait qu'en 2015, quand Fury a gagné contre Klitschko, et ben, il a débloqué la catégorie. Et du coup, on a pu voir aussi d'autres boxeurs poids lourds devenir champions du monde, bah, notamment Wilder, Fury, et voilà, enfin, quelques autres, même Joshua, quelques temps après. Et puis voilà quoi.
Et est-ce que la boxe n'est pas la même si la catégorie poids lourd justement stagne?
C'est pour ça que la boxe, enfin la catégorie des lourds, on l'appelle la catégorie reine. Les plus grands champions, je peux t'en citer deux que même au fin fond de l'Amazonie, on connaît, c'est Tyson et Mohamed Ali. C'est des poids lourds.
Exactement. Et si on regarde donc la chronologie, on voit très bien que Fury est monté en puissance. On va dire qu'il s'est. Sa progression depuis 2017 jusqu'à là, le 9 octobre 2021, où définitivement il gagne la trilogie, n'a cessé d'être en croissance, quoi, entre guillemets. Pour la suite, quand on voit justement ses principaux adversaires pour unifier les titres, qui étaient Deontay Wilder, on voit qu'il s'est. Alors que Deontay Wilder, on attendait justement un match avec Joshua, et à une époque où c'était lui versus Joshua, lequel des deux va régner sur la catégorie. Ouais. Là maintenant, en fait, Fury a complètement rabattu les cartes.
Bah, Fury, avant de prendre Wilder, ce qu'il faut savoir, c'était dans la catégorie, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, il avait 40 combats, 40 victoires, dont 39 avant la limite. Et voilà, donc c'était l'épouvantail, en fait. Fury, vraiment, il a une droite, personne ne voulait personne ne voulait s'y frotter. Du coup, bah, Fury, en 2015, quand il a gagné contre Klitschko, bah, il est rentré dans une dépression, l'alcool, la drogue. Ça peut s'expliquer, voilà, des soucis personnels et tout. Et du coup, ce qui lui a pris, c'est lancer un défi. Il a dit, moi, je vais reprendre la boxe et je vais boxer le meilleur, au fait, de la catégorie. Du coup, il a boxé. Il y a eu ce premier combat où il y a eu match nul. Et puis voilà, ouais. Après, c'est clair qu'il s'est attaqué directement à la montagne.
Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit là. En parlant de Wilder, est-ce que le fait d'avoir simplement cette droite, moi je voudrais ton avis en tant que boxeur professionnel, est-ce que c'est pas ça son principal défaut au final, hein, que Fury a dévoilé devant le monde entier au final? C'est un manque de, je sais pas, je dirais un manque de technique peut-être, pas beaucoup d'arc, pas beaucoup de flèches dans son arc.
En fait, Fury, Wilder, je me trompe à chaque fois. Wilder, en fait, pour un boxeur, il va très vite, enfin, même pour un mec qui connaît un peu la boxe déjà tout simplement, il va très vite voir que techniquement il est limité. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a commencé la boxe tard, très tard. Il a commencé, je crois, à 22 ou 23 ans, même peut-être même 24.
Ouais, il faisait de la lutte au début.
Il a fait plein de sports et tout. Il a commencé, pourquoi? Parce que il devait subvenir aux besoins de la famille et il s'est dit que dans la boxe, il y avait de l'argent à faire assez rapidement. Mais par contre, athlétiquement parlant, c'est vraiment quelque chose d'incroyable.
Ouais, mais justement, tu parles du physique. Comment on peut avoir le corps de Tyson Fury et tenir sur le ring face à un sportif très sculpté, justement, comme Wilder, surtout qu'il boxe presque comme un poids léger, Tyson Fury, un peu. On ne le sent pas lourd, en fait, sur le ring, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est vrai qu'il a une grande capacité à encaisser. Tu peux l'envoyer 15 fois par terre, il se relèvera toujours. Mmh. Il a une technique très variée, peut-être que c'est ça aussi. Et il a un sens du timing surtout. Mais voilà, toi, comment tu, enfin, physiquement, moi, ça me surprend, en fait.
Moi aussi, ouais, je suis d'accord avec toi.
Je pense que tout le monde est surpris.
Ouais. Ouais, il fait quasiment une vingtaine de kilos de plus que Fury, que Wilder. Mais il se déplaçait, il avait des mouvements. Ça se voyait surtout sur le...
Ouais, c'est ça.
Moi, ça m'a sauté aux yeux au troisième combat. Il avait des esquives.
Ouais, exactement.
Et des mouvements dignes d'un poids moyen, quoi.
C'est vrai qu'il a, il a un physique atypique, hein, pour un poids lourd. Après, il est très souple du buste. Il bouge très bien le haut du corps. Et même si on a beau avoir un physique pas très beau, mais quand on fait 120 kilos ou 130 kilos, un coup, c'est un coup, quoi. Un coup d'un mec qui fait 130 kilos, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait 60 kilos, vous voyez.
Ouais.
Donc, quoi qu'il arrive, un mec qui fait 130 kilos, bon pas techniquement, beau ou pas, ça va faire mal.
Ouais, après, il y a quand même plus que...
Et la technique aussi.
Des enclumes à chaque point.
Ça, c'est des gens qui font de la boxe depuis qu'ils sont nés.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser pour Wilder, concrètement, moi, j'ai vu des commentaires de gens qui disaient, certes, il a une enclume à chaque bout de... à chaque main, mais il est très limité, en fait.
Hein.
Ce qui revient souvent... Vous allez me dire, messieurs, ce que vous en pensez. C'est surtout qu'il n'a pas de garde. On dit souvent qu'il n'a pas de garde. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est ça qui l'a emmené au tapis face à un mec qui, techniquement, a réussi vraiment à bien l'analyser?
En tout cas, une chose qu'on peut souligner, c'est que moi, en voyant le dernier combat en date, franchement, je pensais qu'il allait être mis hors d'état complètement, définitivement, au bout du troisième ou quatrième round, à partir de son premier knockdown, en fait. Je me suis clairement dit, moi, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Il va aller plus vite qu'au second combat où il a fallu attendre la septième reprise, il me semble, c'est ça, pour le...
Second, ouais, c'était au septième round.
Ouais, le septième round. Alors que là, dès le troisième round, il était par terre. Ouais, il a été mis par terre au troisième round. Je me suis dit, c'est fini. N'importe quel fan pourrait se dire, qui a connu le précédent, pourrait se dire, ça y est, il va aller encore plus vite. Il se relève et à partir du quatrième round, il met Fury deux fois au tapis durant la même reprise, durant le même round. Et chose qu'il faut souligner, c'est là où je voulais en venir, il a quand même du cœur. Il a tenu, moi je me demandais comment il faisait pour tenir jusqu'au cinquième, sixième, septième, huitième, jusqu'au onzième round quand même.
Il a mis Fury au tapis aussi. Hein.
Alors qu'il était, pour moi, physiquement, il était carbonisé dès le troisième round. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rachid. Oui,
carrément, de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes.
Moi, je voyais quelqu'un qui manquait de respiration, qui était totalement carbonisé.
Mais bon, mentalement, voilà, c'est là que tu vois aussi c'est des champions. C'est pas pour rien. Tu vois, mentalement aussi, c'est des gens qui tiennent le coup. Et ils s'est battu jusqu'à la fin. Quoi.
Ouais, alors. D'un autre côté, il y a les concurrents directs qui sont notamment Joshua. Joshua qui avait une progression assez rapide, on va dire. Et là, d'un coup, on a l'impression qu'il est de moins en moins, il est de moins en moins présent. En fait, il perd ses combats. On parlait de physique un peu atypique. Bah, il perd contre le Mexicain qui a un physique aussi atypique.
Ruiz,
exactement.
Ça donne l'espoir
à tous les gens en surpoids.
Carrément.
Ici, est-ce que là, maintenant, si on peut faire une conclusion sur Wilder, est-ce que là, Wilder, comment il va faire pour rebondir? Est-ce que c'est fini pour lui? Est-ce que maintenant, Fury va s'attaquer à Joshua? Quelle est la suite, au fait?
Le but de tout boxeur, notamment quand tu es au haut niveau comme Fury, c'est de unifier la catégorie. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir dans la boxe, c'est qu'il y a quatre fédérations mondiales. Elles se valent toutes plus ou moins, c'est les quatre majeures. Et le but, déjà, c'est d'être champion du monde dans une fédération, ce qui est déjà très, très, très compliqué.
Donc d'avoir une ceinture.
D'avoir une ceinture. Et le but ultime, suprême de tout boxeur, c'est de unifier les quatre ceintures. Ça veut dire que là, Fury, il en a une, la WBC. Et là, son but, à mon avis, bah, logiquement, ça serait d'unifier toutes les autres, sachant que toutes les autres, elles sont détenues par un boxeur.
Donc, qui n'est plus Joshua.
Qui n'est plus Joshua, qui est Usyk, un boxeur ukrainien, qui l'a battu. Ouais.
Là aussi, est-ce que c'est une surprise? Parce qu'il était Usyk, franchement, on ne va pas dire qu'on ne l'a pas vu venir, parce qu'il était dans les contenders, dans les challengers plutôt, pour un combat contre un gros. Mais bah, c'est la deuxième grosse défaite de Joshua, en fait.
Le public lambda, en fait, Usyk, ça n'a rien à voir avec Ruiz, par exemple. C'est pas la même surprise, parce que Usyk, les connaisseurs de boxe, entre guillemets, savaient qui c'était. Il vient de la catégorie inférieure. Et déjà, dans la catégorie inférieure, il a fait... Il a survolé la catégorie inférieure. Donc, quand il est monté, c'était pas du tout étonnant. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'étais pas étonné.
Pour les connaisseurs, c'était pas étonnant. Si on revient à Klitschko, est-ce qu'il a le même style? Comme c'est un Ukrainien, est-ce que c'est le même style soporifique?
Pas du tout. Lui, c'est un gaucher, ça n'a rien à voir. Là, de base, un gaucher, un droitier, ça ne peut pas avoir le même style. Mais non, il y a du spectacle quand il boxe. Ouais.
Donc on va dire que c'est Joshua Wilder, du coup, ceux qui étaient sommet.
Ouais, quoi,
est-ce qu'on va les mettre de côté là? Qu'est-ce que t'en penses, John?
Non, ils devraient se boxer entre eux. Pourquoi pas?
Ouais.
Voilà. La logique fait que voilà, ils devraient
se boxer entre eux. En sachant que Joshua, si on peut mettre ça sur Joshua, a refusé plusieurs fois un combat contre Wilder à l'époque où ils étaient tous les deux au top.
Et il aurait dû combattre, il me semble, également Tyson Fury avant la trilogie, hein, avant le troisième combat. Ce qui s'est pas fait. Hein.
Et jusqu'à quand, en fait? Bon, maintenant qu'il a plus les ceintures, mais il va sûrement y avoir un rematch entre lui et l'Ukrainien.
Moi, après, en tout cas. Ouais. Après avoir vu la trilogie Fury-Wilder, je me dis quel est l'intérêt de confronter Fury à Joshua? On sait clairement qui est le patron de cette catégorie. Moi, c'est l'avis que... C'est une opinion personnelle que j'ai là-dessus.
Ouais, raison,
je me dis quel est l'intérêt maintenant? Il y avait un intérêt quand chacun avait une ceinture à la rigueur avant le troisième combat.
Ça, ouais.
Mais maintenant, quel est l'intérêt?
Même eux, hein, même Fury, je pense que lui, que ce soit Usyk ou Fury, leur but, c'est pas de regarder en dessous, entre guillemets, c'est de plus de vouloir aller chercher la
ceinture qui reste. Hein.
Ouais, mais le problème d'Usyk, c'est justement qu'il doit sûrement avoir contractuellement un rematch à faire contre
Joshua. C'est ça. Bah, même Fury et Wilder, ce qui a fait qu'il y a une trilogie, c'est les clauses de rematch dans les contrats.
Exactement, donc du coup là on va sûrement s'attendre à un rematch. Fury entre temps, je sais pas.
Fury va attendre, il va prendre 2-3 combats pour rester actif. Et puis dès qu'il aura l'occasion.
Tu le vois face à qui, Fury?
Fury?
Ouais. Prochainement.
Ouais, il y a des boxeurs. Il y a un boxeur, Dylan White par exemple. Dylan White, c'est un boxeur anglais. Lui ça. Pareil, en fait, de toute façon, dans tous les cas, il est challenger mondial pour la fédération où Fury a la ceinture. Donc, c'est un très bon boxeur anglais aussi. C'est un des top mondial en poids lourd et c'est un boxeur anglais. Donc, peut-être faire un combat british, 100% british là-bas, dans un stade, tu sais, à Wembley. Il y aura moins d'engouement que si c'était Fury, que si c'était Joshua. Mais voilà, ça fera quand même un bon truc.
Moi, je suis un peu déçu, hein, moi, personnellement, parce que en tant qu'amateur de boxe, j'ai pas votre expertise là sur ce sport-là. On m'avait vendu Wilder, Joshua pendant plusieurs années comme étant la meilleure génération qu'a connue la boxe en termes de poids lourd en même temps. Et au final, là, on voit que ça devient n'importe quoi alors qu'ils sont encore jeunes, non? Ils sont déjà dépassés, au fait. Et cette analyse-là, je ne sais pas comment on peut la faire. Parce que là, on a bien l'impression que... Alors, justement, ça va nous permettre de rebondir sur notre deuxième partie. Où est-ce qu'on va placer le français Tony Yoka là-dedans? Puisque là, il rentre dans un top 15 après sa dernière victoire. Mais franchement, là, quand on voit un peu les destins tragiques, entre guillemets, de Wilder et Joshua, et la renaissance de Fury... Et l'arrivée de l'Ukrainien, quelle est sa place?
En fait, les époques changent. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, les poids lourds des années 90, où ils se boxaient tous entre eux. Voilà. Là, maintenant, c'est beaucoup d'histoires d'argent, de contrats. Les boxeurs qui ont des promoteurs différents
Et c'est quoi, c'est un combat par an maximum pour
Ouais, voilà, ouais. Un ou deux combats par an, mais bon, c'est pas... Voilà.
Mais du coup, Rachid, si je te suis, ça veut dire que tu sous-entends que Wilder est fini, en fait.
Non, après, il peut rebondir. Wilder, pour Wilder, lui, il y a des questions de justement boxer Ruiz. En fait, des boxeurs qui sont sous le même promoteur vont se boxer plus facilement que des boxeurs qui ont des promoteurs différents.
D'accord. C'est encore un
élément à prendre en compte. Et avant, il n'y avait pas 15 promoteurs. Avant, il y en avait un ou deux. Il y avait Don King,
le légendaire Don King.
À Mike Tyson, et peut-être un autre, mais voilà, c'était pas aussi compliqué que maintenant.
Et donc là, si on repasse à Tony Yoka, quand on regarde le début de sa carrière, les combattants, les adversaires qu'il a eus, on va pas se mentir, ça n'a pas été des adversaires très fameux. Mmh. Lui qui, justement, contrairement à Joshua, parce qu'on les a comparés un peu, ils ont un peu un parcours, on va dire, similaire, vainqueur. On rappelle médaille d'or aux Jeux Olympiques, les deux, mais à 4 ans d'écart, c'est pas du tout la même trajectoire. John.
Moi, je voudrais l'avis de Rachid. Qu'est-ce que tu en penses de Yoka ? Est-ce qu'il y a trop de hype autour de lui ou est-ce que il y a plus que de la hype ?
Moi, techniquement parlant, c'est-à-dire uniquement l'aspect boxe, c'est un très bon boxeur. C'est-à-dire que voilà, il peut aller très loin, même si je pense qu'il manque un peu de punch pour faire vraiment subjuguer les foules ou quoi. Ce sera pas un boxeur à la Wilder, par exemple, jamais de la vie. Mais techniquement parlant, c'est un très bon boxeur. Après, effectivement, la hype, le fait qu'il boxe que des gens qui n'ont pas son niveau, c'est vrai que ça le retarde un peu dans son avancée de carrière, quoi.
Et physiquement aussi, on dit souvent que physiquement, il n'est pas au niveau.
Non, physiquement, il fait 110 kilos. Il fait 110 kilos comme Joshua. Il est plus lourd que Wilder.
D'accord.
Donc oui, après, peut-être ça paraît pas, je sais pas, c'est une question de physionomie ou quoi, mais
après, est-ce que c'est pas une question de surtout une question de timing concernant Tony Yoka? Parce que tu ne peux pas demander à affronter tout de suite les meilleurs si t'es pas bien classé. Par contre, là, c'est le moment, effectivement. Je pense qu'en 2022, il lui faut un top 10. Mais tant qu'un tel combat n'aura pas lieu, en fait, on fera que de parler dans le vent.
C'est
d'accord.
Ça. En fait, il est passé pro en 2016. Ouais. Ça aurait pu aller un peu plus vite quand même.
Ouais, ça fait quand même
quelques années qu'on dit ouais, laissez du temps. Je veux dire, il y a des boxeurs qui sont passés pro bien après, et pourtant là aujourd'hui ils sont. Regarde par exemple le boxeur qu'il avait battu en finale des Jeux Olympiques. Ouais. Aujourd'hui là il est numéro 1 mondial dans une fédération. Et ça va être sûrement être lui qui va boxer Usyk, le fameux Usyk. Ouais.
D'accord, okay. C'est le challenger numéro 1.
C'est le challenger numéro 1, alors qu'il a été avec lui, qu'il a battu en finale des Jeux Olympiques.
Et c'est quoi le problème alors ? Est-ce que c'est les promoteurs français ? Est-ce que c'est la France le problème ? Parce que là, on voit que les Anglais, ils ont pendant, et vous m'arrêtez si je dis des bêtises, pendant longtemps subi un peu une traversée du désert. Là, ils ressortent pas mal de boxeurs.
Non, je pense que c'est un mauvais calcul de leur part, hein, parce que Yoka... C'est le boxeur français le mieux payé, limite, il est même peut-être mieux payé que même des boxeurs dans d'autres pays. Et non, moi je pense que c'est des mauvais calculs de la part de son équipe, de sa part à lui, mais aussi de la part de son équipe. Je veux dire, c'est pas le boxeur lambda, Tony Yoka, il était champion olympique quand même. Donc il peut, à force de dire oui, dans quelques temps, laisser le temps et tout, t'as été champion olympique, normalement c'est en 2-3 ans tu dois être au sommet.
Ouais, alors juste parenthèse, c'est Joey Joyce, hein,
l'adversaire de Joe Joyce, super boxeur. Ouais.
L'adversaire de Yoka en finale des JO de Rio, qui d'ailleurs a réclamé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, là, quelques semaines, que la médaille d'or des JO devrait lui revenir maintenant.
C'est discutable. Mais même celui que Yoka a battu en demi-finale des JO, c'est pareil, c'est un Croate Ergovic. Et pareil, il est plus haut dans les classements que
Tony Yoka. Donc il y a bien un problème. Et surtout que je reviens sur ce qu'a dit John, sur la hype, j'ai l'impression quand même que la hype est en train de tomber. Là. On en a marre de le regarder combattre contre
c'est
des
dommage,
videurs.
Ouais. C'est ça, c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, il ne se sert pas de l'élan, parce qu'en fin de compte, il est soutenu par beaucoup de Français.
Parce que si je ne dis pas de bêtises, Joshua, il gagne la médaille d'or en 2012, donc à Londres, chez lui, en boxe. Et puis, il combat Klitschko 4 ans plus tard.
Ouais, 2015, je crois, de mémoire.
Son combat contre Klitschko, c'est 2017. En 2015, je sais plus. Ouais, c'est en... Je crois, non, en fait, il boxe en 2012, il est champion olympique en 2012. Et en 2017, il est champion du monde. Donc voilà, peu de temps après. Après, aussi, on peut excuser. Enfin,
peut-être qu'il y a le Covid, tout ça.
Exactement, voilà, il y a le Covid et aussi il y a une suspension d'un an, Yoka.
C'est vrai.
Par rapport au fait que voilà, il s'était pas présenté à des contrôles antidopage, ça peut expliquer certaines choses, un peu en partie le retard, mais malgré ça, je pense que là c'est le moment d'accélérer.
Parce que là, il arrive, il a 29 ans, il y a un tournant dans sa carrière.
C'est ça, ouais.
Là, on a appris aujourd'hui qu'il est, personnellement, il a divorcé, ouais. Qu'il s'entraîne toujours aux États-Unis. Est-ce que c'est la bonne chose au fait d'aller s'entraîner aux États-Unis, de venir faire des combats une à deux fois par an ici contre des adversaires moyens, même si son dernier adversaire était censé être un de ses meilleurs adversaires. Il l'a dominé, etc. Donc là, vous ne voyez pas, là, si on parle des deux prochaines années, vous ne le voyez pas rentrer dans le challenge pour un titre mondial.
Moi, clairement, je pense que s'il continue à ce rythme-là, il va stagner et ça va rester au même point. Quoi.
Ouais, il le faut. Mais de toute façon, il le réclame, un combat en 2022, un top 10.
Ah, mais il a réclamé, il y a mettre en œuvre les comment dire. Enfin, faire en sorte que ça se passe.
Ouais. Mais il paraît que c'est son équipe qui bloque, qui dit qu'il n'est peut-être pas assez.
C'est lui qui décide.
D'accord.
Je pense que c'est lui qui décide. Et
c'est Tony Yoka qui décide, tu dis ?
Oui, je suis quasiment. Ouais, enfin, d'après les bruits de couloir, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est plus ou moins lui qui décide, ouais.
Mais attends, parce que ça, c'est intéressant ce que tu dis, Rachid. Toi, en tant que boxeur, pourquoi tu refuserais de combattre un top 10 pour l'instant ? Pourquoi tu ferais reculer les choses ?
Si t'as pas confiance ? S'il perd.
Ouais.
S'il perd, bah, toute la fameuse hype dont on parle depuis tout à l'heure, ça retombe.
Mais c'est un dilemme, parce que la hype est quand même en train de retomber, parce qu'on lui reproche, les gens ont commencé à voir, en fait.
Moi, je pense que les gens le respecteraient plus s'il a une défaite contre un boxeur vraiment de renom, que s'il continue à faire sa carrière, à gérer sa carrière de cette manière.
Ouais, en attendant, on reste frustré. Hein. Ça fait des années qu'il est dans le circuit.
La conquête, ouais.
Mais toi, John, honnêtement, ton avis sur Yoka, tu le vois rien faire dans les années à venir ?
Si je devais être transparent, ta conviction, je le vois pas s'imposer dans le top mondial, même pas dans le top 5.
Et c'est quoi ? C'est des lacunes techniques ? Bah, sachant que Rachid a dit que techniquement, c'était un bon, très bon boxeur.
Techniquement, c'est un bon boxeur.
Mais la technique ne suffit pas.
Mais comparé à l'élite dans sa catégorie, je ne sais pas s'il pourrait tenir la cadence. J'ai des doutes, j'ai des doutes sur sa possibilité de tenir 12 rounds face au rouleau compresseur Fury.
En sachant qu'il y a un Français dont j'ai oublié le nom, qui a quand même combattu Joshua et qui a tenu pas mal de rounds, 11 rounds.
Takam.
Exactement.
Klaus Takam.
Et en plus de ça, la victoire de Joshua, l'arrêt de l'arbitre était un peu...
Précipité, ouais.
Pourquoi Yoka ne ferait pas un match comme ça face à un Joshua ou un Wilder ?
Non, mais c'est pas la même chose, je crois, que Carlos Takam, c'était plus sparring partner. Ils l'ont pris comme ça, du coup, dans le camp de Joshua, alors que Tony Yoka,
mais il a pas été ridicule,
entre guillemets, un véritable adversaire.
Ouais, je comprends.
Je pense.
Après, c'est des suppositions, on peut émettre des suppositions, mais tant que Yoka n'a pas boxé un top 10 ou un top 5, on ne pourra jamais réellement savoir.
Moi, je reste frustré. Moi, j'attends ça.
C'est ça le souci, en fait. C'est
que, comme tu l'as dit, Rachid, moi, j'aimerais bien le voir défaite ou victoire face à un top 10 ou un vrai top 5.
Qui vaut la peine,
Après, on pourra essayer de le classer par rapport aux autres prétendants rapport dans la course à une ceinture.
Après, il peut dire, en fait...
Mais là, il est hors course. Pour moi, il est totalement hors course actuellement.
Vas-y, Julien, est-ce que tu as une question encore ?
Ouais, en fait, je voudrais vous demander où vous placez cette trilogie Wilder Fury, pour revenir au sujet principal. À quel rang, en fait, vous la placez parmi les meilleures trilogies de l'histoire ? Au moins dans la catégorie poids lourd. Parce qu'il y a eu des grands moments aussi plus proches de ta catégorie, Rachid, comme l'affrontement, par exemple, entre Leonard et Roberto Duran dans les années 80. Avec le fameux Nadamas, lors de la deuxième rencontre, avec la démonstration de Leonard. Bon, ça, c'est un exemple, mais si on reste chez les poids lourds.
Non, il y a eu énormément de trilogies d'anthologie. Hein. Ça serait manquer de respect à certains boxeurs, de dire que Fury Wilder, c'était une... Après, c'est une belle trilogie.
Ouais.
Mais non, par exemple...
Tu la places pas dans un top 5, par exemple.
Ah non, pas du tout. Moi, au-delà du fait qu'effectivement, je suis boxeur, je suis aussi un passionné de boxe. Donc, niveau histoire, j'essaie quand même de regarder les commandes d'anthologie. Moi, pour moi, en poids lourd, la plus grande trilogie, c'est Holyfield contre Bo.
Ouais, je suis d'accord.
Exactement, voilà. Ça, c'est la numéro 1 des trilogies en poids lourd. Après, voilà, le reste, chacun a ses goûts. C'est, voilà, je sais pas, moi, en tout cas, personnellement, je la mets pas dans le top.
On parle beaucoup de cette trilogie parce que Fury, Tyson Fury, justement, a eu le... Comment dire, le Tyson Fury a eu ce mérite de faire revivre cette catégorie. Hein. C'est lui qui a redynamisé.
C'est, ça,
ouais. c'est au-delà d'être un très bon boxeur, c'est un très bon showman. Hein. Mm-hmm. Il fait le spectacle.
Franchement,
avant combat, après combat.
Je suis pas vraiment d'accord avec vous. Moi, je pense que vraiment les trois ont redynamisé cette catégorie. Chacun a eu son rôle, que ce soit Joshua, Wilder ou Fury.
Mais...
Après. Voilà, vous êtes plus... peut-être vous avez
non, c'est
un
pas
truc
ça,
plus
c'est,
particulier
c'est que,
avec Fury.
C'est comme je disais, c'est que Fury, en ayant battu Vladimir Klitschko, il a relancé les dés. Quoi.
Pour toi, c'est ça le point
C'est ça
départ.
Le point. Depuis 2015, la catégorie a commencé à revivre, c'est par rapport à ça. Après, oui, là, actuellement, je suis entièrement d'accord avec toi. Heureusement qu'il y a Joshua, Wilder, Fury, Ortiz, enfin, ouais, t'es bon pour l'eau.
John, excuse-moi de t'avoir coupé. Donc toi, tu restes sur le Fury. Pour toi, c'est lui qui a redynamisé le...
Oui,
la catégorie.
Ouais,
et ça fait pas partie du coup de cette trilogie, ne fait pas partie de ton top 5 des meilleures trilogies de l'histoire.
Elle fait partie, en tout cas, cette trilogie fait partie des meilleurs combats des 20 dernières années en boxe dans cette catégorie.
Des 20 dernières années, oui, c'est sûr.
Mais c'est pas un top 5 pour toi.
Je sais pas, peut-être que le dernier combat avec ses 5 knockdowns, avec toutes les conséquences qu'il a pour la suite, on ne sait pas ce que ça va réellement donner pour la suite de la carrière de Fury. Je le mets dans mon top, ce combat-là, en tout cas. Le troisième combat.
Parce que c'est vrai que moi, en tout cas, là, comme ça, sans vraiment réfléchir, avant ça, je mettrais, c'est sûr, je suis d'accord avec Rachid, le Holyfield Bow avec une mention particulière pour le deuxième combat.
Ça, Julien.
Le Frazier Ali, évidemment, ouais. Ça c'est mythique. Bon, ouais. Ça c'est presque, on est en dehors du sport quasiment. Ouais. Je pense que le Norton Ali, mais bon, ça remonte un peu, c'est autre chose. Le Tyson Holyfield aussi, enfin voilà, il y en avait quand même pas mal. Il y a des histoires quoi à raconter sur.
Ouais, c'est clair.
Ouais.
Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour là sur la boxe. On va passer donc au MMA avec un combat qui attend un Français pour le titre. Cyril Gane face à Francis Ngannou, le Camerounais, ou je sais pas, le Français. S'il gagne, il est Français. S'il perd, il est Camerounais.
Ouais,
on ne sait pas. Ce sera le 23 janvier 2022. Messieurs, moi, la question que je me pose, encore une fois, on a un Français pour une ceinture UFC, c'est quand même un événement, même s'il a le titre en attendant. Est-ce que quand même Cyril Gane n'est pas arrivé à une période de l'UFC où il est plus simple d'accéder à un combat pour le titre, Rachid?
Je pense pas. Hein, je pense pas. Je pense que chaque période a ses champions. Cyril Gane, je pense que dans, enfin, n'importe quelle époque, tu l'aurais mis, il aurait posé, ça aurait été un casse-tête pour n'importe quel champion en place, parce que sa manière de combattre, donc je vais pas dire boxer, mais sa manière de combattre, en fait,
il vient de la boxe, hein.
Il vient de la boxe
thaï,
il vient de la boxe thaï apparemment, ouais.
Ouais.
Donc sa manière de boxer, en fait, elle est perturbante, surtout pour une catégorie comme celle des poids lourds, où bon, lui c'est un boxeur qui se déplace énormément, qui est toujours en mouvement, voilà, impulsion répulsion sur ses appuis. Et en polo, en général, les mecs, ils sont là, pieds plats, et ils cherchent vraiment à descendre l'adversaire. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit avant ou maintenant, ça aurait été une galère. Ouais.
D'accord, donc il n'y a pas de surcotage autour
je
de
pense
de
pas, non, je pense pas. C'est un combattant très, très malin, très, très intelligent. Et puis, ça se voit son visage, hein, il n'est pas abîmé. Hein, c'est propre.
Et toi, John, sur Cyril Gane, là, pour l'instant, qu'est-ce que tu penses de ce combattant? Dans l'histoire de l'UFC, est-ce que...
Moi, je pense, au contraire, je pense qu'il arrive dans une période plutôt favorable, hein, pour lui, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup moins de concurrence dans cette catégorie. Aujourd'hui, pour moi, à mon sens, on est dans la période où cette catégorie est la plus faible, on va dire. Hein.
D'accord.
On est loin des 8-10 combattants qui pouvaient être potentiellement champions il y a ne serait-ce que quelques années, hein. Il y avait le top 10 qui était
Velasquez,
potentiellement, oui, tous.
Overeem,
Dos Santos, etc.
Voilà, dans ce
alors
ce
qu'aujourd'hui,
il y a
Francis Ngannou et il y a un prétendant numéro 1. Je ne vois pas qui il y a d'autre derrière.
D'accord, ok.
Oh, il y a Stipe Miocic aussi qui
est
pas mal.
Oui, voilà. Il pourrait faire sa trilogie d'ailleurs avec
Ngannou.
Ouais. Oui, à part ces trois-là, ouais. Je ne sais pas.
Ah, donc tu ne mettrais pas Cyril Gane en trilogie contre Ngannou? Tu penses que c'est juste un passage?
Je sais pas. Ngannou a cette a cette qualité, en tout cas en poids lourd, qui est super efficace. Et il n'y a pas besoin d'être super esthétique, il n'y a pas besoin d'être super technique. Il suffit d'avoir des enclumes, à la place des gants et de savoir bien placer ce que tu disais, Rachid, tout à l'heure. Wilder, tout le monde avait peur de sa droite. Ngannou, tout le monde a peur
de ses coups, tout simplement.
Et il sait bien les utiliser. Il a allongé tout le monde sur sa liste, à part une défaite contre...
Même si on a vu que techniquement, là, il y a eu des vidéos en slow motion où on voit que techniquement, c'est pas propre. On en avait discuté.
Oui, on peut pas comparer ça à la boxe. Hein. On peut pas comparer ça à un niveau de boxeur. Je pense que Rachid.
Il y a un peu des similitudes avec le cas Wilder, dans le sens où il a commencé tard aussi. Ngannou, il arrive en France. Bon, on connaît plus ou moins son histoire dans le sens.
Ouais.
Il arrive en France, il était à la rue. Voilà, patati patata, tout.
Précarité.
Le roman. Ouais, bon, après, ouais. C'est malheureux pour lui. Après,
ça
voilà,
fait partie de son histoire. C'est ce qu'il a construit, c'est ce qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui, hein, le champion qu'il est.
Et voilà, il a commencé tard. Lui, je sais qu'apparemment, il aimait bien déjà les sports de combat quand il était au Cameroun. Il a commencé tard l'UFC. Lui, à la base, ce qu'il aimait, c'est la boxe. Donc, il a commencé tard l'UFC. Donc voilà, le fait qu'il ait commencé tard, bah forcément, ça engendre des lacunes techniques, parce qu'on sait tous que apprendre à une chose étant petit, étant grand, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, que ce soit dans les langues, dans le sport.
L'apprendre dans tout, même à l'école, voilà, comme on dit et tout. Voilà,
à moins d'être un virtuose, hein, un génie.
Ouais, mais bon, il y en a très peu.
Et donc du coup, là, sur ce match-là, qu'est-ce qu'on peut dire réellement? Est-ce que vous voyez, pour vous, Francis et au-dessus, ça va se jouer qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match?
Personnellement, moi, je suis indécis. Après, voilà, l'UFC, c'est pas un truc... Bah, j'ai commencé à m'intéresser à l'UFC il y a très peu de temps. Et c'est vrai que c'est vraiment... Je kiffe, hein, aussi. Hein. Moi, j'étais très boxe anglaise et tout, donc voilà. C'est vrai que, moi, pour moi, c'est la force contre la technique. Tu vois, ce combat-là, si Francis a le malheur de toucher... Enfin, si Gann a le malheur de se faire toucher par Francis, ça va être très, très compliqué après de revenir. Parce que c'est vrai qu'il a une force vraiment...
Avantage Francis,
incroyable.
Du coup.
Ouais, je dirais un avantage pour Francis. Après, je peux me tromper, mais bon.
Ouais. John ?
Ouais, moi aussi, je pars. Pour moi, un avantage pour Ngannou, hein, clairement. Après, faut quand même... c'est la technique contre la force, mais on l'a vu dans le deuxième combat contre Stipe Miocic.
Il s'est amélioré, ouais.
Il s'est largement amélioré.
Ouais,
il a appris à canaliser Francis Ngannou.
Francis, ouais.
Il s'est largement amélioré, alors que le premier combat, c'était une défaite à plate couture face à un mec, un combattant moins fort que lui, mais beaucoup plus technique, hein, qui a usé de sa lutte, etc., pour le fatiguer, et au final, le dominer, remporter le combat. Là, c'est... Je pense qu'il s'est amélioré. Enfin, je veux dire, c'est pas le Francis qui a combattu le premier Stipe. C'est le Francis qui a combattu le deuxième Stipe. Enfin, le deuxième. Donc
en espérant qu'il s'est amélioré encore depuis.
Ouais, je pense qu'il va s'améliorer, c'est sûr et certain. Puis ils se connaissent aussi. Hein. Ils ont déjà fait un peu de sparring ensemble. Bah, on va rappeler qu'ils se sont entraînés avec le même entraîneur dans la même salle. Ils ont un peu aussi tourné ensemble en sparring et tout. Donc,
Et justement, donc,
une fois apparemment. Hein.
Non,
une seule fois d'après,
fois,
d'après Gann et d'après les déclarations de Gann et de Ngannou.
Ah ouais.
Ouais.
Et du coup, messieurs, est-ce que ça fait pas plaisir de voir des nations de second rang, en fait, arriver à atteindre ces matchs pour la ceinture? Parce que entre Américains et Britanniques, plus Américains d'ailleurs, et Brésiliens en UFC, pendant longtemps, ils se sont partagés le gâteau. Là, est-ce que c'est pas un renouveau? Est-ce que l'UFC n'a pas fait son renouveau et on voit des nouveaux champions de nations de ce...
Aujourd'hui, c'est les Africains et les Européens qui se partagent les ceintures à l'UFC. Hein,
du Caucase,
entre les Russes, les Russes, il y a eu McGregor, l'Irlandais, et tous les champions africains.
Mais si on regarde
Adesanya, Kamaru Usman, etc.
Et si on regarde historiquement, par exemple en France, le MMA a été légalisé très récemment. Est-ce que ça va pas ouvrir la porte, justement, parce qu'on sait que les Russes, enfin, l'UFC est une organisation quand même spéciale, on lui a reproché de mettre beaucoup en avant les Américains. Les Russes, eux, ont mis du temps à faire leur place un peu en UFC, là, alors que le MMA chez eux est quand même depuis longtemps un sport très pratiqué. Est-ce que ça ouvre pas aussi la porte pour des futurs Français ou est-ce qu'on est encore beaucoup trop loin niveau organisation des entraînements, niveau sponsoring, etc.
Je suis entièrement d'accord avec toi, parce que quand tu vois, par exemple, avant, dans la boxe, c'était les meilleurs se rencontrer. Maintenant, quand tu vois que les meilleurs ne se rencontrent pas et que pour des soucis, enfin, pour des tractations, on va dire, financières, en coulisses, ils se boxent pas, tu perds énormément de combats, comme le fameux combat qu'on parlait, Joshua contre Wilder. Du coup, ce qui fait que les gens se rabattent aussi pas mal vers l'UFC, l'MMA, parce que justement, il y a ces combats on va dire les meilleurs contre les meilleurs.
D'accord.
L'aspect mercantile est en train de prendre quand même une grosse place dans les combats.
Voilà, peut-être.
Ouais. Notamment,
ça va changer forcément. Ça va changer. Ça va faire comme la boxe. Mais en tout cas, pour le moment, je pense que moi, je vois ça de loin, mais je pense que c'est encore le meilleur contre le meilleur. Il y a un classement et puis tu boxes, ça arrive.
Il y a quelques exceptions. Il y en a qui ont fait sauter les règles.
Voilà.
Conor McGregor.
Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'on a vu que ça, avec Conor McGregor, que la règle, il arrive à la faire sauter en coulisses, mais que dans l'octogone, c'était un peu plus difficile.
Ouais. Non, mais je veux dire, il y a des combattants qui enchaînent 10 victoires d'affilée avant d'avoir un combat pour un titre, pour la ceinture,
ouais.
Alors que d'autres, même après une défaite, recombattent directement enchaînent 2 victoires pour le titre. Hein.
Bon, mais... après, je pense que dans l'UFC, quoi qu'il arrive... Un boxeur qui mérite de faire un titre tôt ou tard, enfin, je veux dire, il mettra pas 10 ans avant de combattre pour la ceinture.
Mais c'est vrai que la durée de vie à l'UFC pour les combattants qui sont pas forcément américains ou qui rapportent pas du pay-per-view, elle est vraiment très très limitée. Voir un Gan ou un Ngannou pouvoir combattre pour un titre et en main event, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu se dire ça. Parce que ce n'est pas des combattants forcément bankable. Qu'est-ce que tu en penses, John, là-dessus ?
L'aspect mercantile, comme je l'ai dit, hein, est en train de faire sa petite place, même dans le combat, hein, de façon générale.
En fait, ce que les gens ils aiment, tout simplement, c'est le chaos.
C'est le spectacle.
C'est ce que les gens veulent voir, c'est des chaos. À partir du moment où tu mets des chaos, voilà, pardon de faire à chaque fois l'analogie avec la boxe anglaise, de revenir sur la boxe anglaise.
C'est
mais
le sport roi.
Voilà, on prend l'exemple d'un Golovkin. En pot moyen. Lui, il est arrivé du Kazakhstan. Personne ne le connaissait. Il est arrivé aux États-Unis. Il a mis des KO. Et ses pay-per-views, ils se vendaient par millions. Tu vois, donc Ngannou, c'est pareil. Ngannou, c'est une star aux États-Unis. Parce que pourquoi ? Il met des KO, le gars. Donc, même si c'est pas un Américain de base, il va quand même vendre. Tu vois.
Le spectacle avant
c'est
tout.
C'est ça, le spectacle avant tout. Puis tu sais, les Américains, je pense, ils sont pas. Enfin, si, peut-être ils sont un peu chauvins, mais. Moins que les Français, à mon avis.
Bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars, sur le MMA. On va passer donc à l'interview de notre invité, je le rappelle, Rachid Achoui, qui nous fait l'honneur donc, d'être avec nous dans les studios, ex-champion de France de boxe anglaise, des poids moyens. Alors, Rachid, tout d'abord, je voulais te poser comme question, comment t'es arrivé à la boxe ? Parce que j'ai cru comprendre que t'avais fait d'autres sports de combat avant.
Ouais, un peu comme tous les garçons, je kiffais Van Damme et Bruce Lee, hein. Hein, surtout dans la ville de plaisir. Hein, c'est... je kiffais les films de Van Damme, Bruce Lee, les sports de combat, Rocky, tout ça. Voilà, forcément, ça m'a... Dès plus jeune âge, j'étais dedans. Ouais, je vais pas dire comme tous les garçons, dès qu'on pose la question en boxeur, parce que j'étais turbulent, mon père il m'a inscrit à c'est pas ça, moi j'étais
stéréotype.
Moi c'était exactement, moi c'était plutôt l'inverse, j'étais petit frêle,
introverti.
C'était plus pour apprendre à me défendre peut-être, les sports de combat à la base et puis
que t'aurais très bien pu faire du foot.
Ouais, mais j'ai fait un peu de foot mais c'était pas j'étais pas destiné à ça, je crois. Non, mais puis voilà, après j'ai fait le taekwondo, c'est vrai que j'en ai fait quelques années. Et puis à 18 ans, j'ai fait de la boxe et le fait que j'ai fait taekwondo, peut-être ça m'a facilité aussi pour la boxe. Donc c'est pour ça que peut-être je suis monté assez rapidement dans ce sport-là.
Ouais. Et pourquoi la boxe anglaise et pas toi qui as fait du taekwondo par exemple ?
Parce que c'est le sport de base déjà. C'est le sport de base et là où j'habitais, dans mon quartier, en fait, il y avait des potes qui faisaient de la boxe anglaise. Donc un jour, je suis allé avec eux et puis directement, j'ai accroché quoi.
Donc, tout t'as commencé bête, hein. Où ? Dans quel club ?
J'ai commencé à Elancourt.
Ok.
À Elancourt, ouais, avec Antoine Farrugia. Ouais. Le fameux Antoine Farrugia, personnel.
Et c'est lui qui t'a, qui t'a détecté entre guillemets, ou c'est toi qui es parti?
Non, c'est moi qui est parti. Il y a pas de, détection. Hein. Voilà, si que tu sois bon ou pas bon. Enfin, en tout cas, elle est en cours à l'époque. Hein. Maintenant, ça a changé, mais à l'époque, il y en a eu des gens qui étaient très très bons, qui avaient un gros potentiel, mais qui trouvaient ça trop dur. Donc du coup, ils revenaient pas. Mais c'est pas pour autant que le coach il les appelait pour leur dire de revenir. Tu voulais pas venir, bah tu restais chez toi. C'était plus le voilà.
La motivation,
ça m'a toujours, voilà, ça m'a pris directement. Et puis voilà, quoi, c'est comme tu dis, c'est le sport de base, quoi, la boxe. C'est, voilà.
Et c'est quoi le chemin ensuite pour parvenir au titre de champion de France?
Bah, y a...
un long chemin, sûrement.
Ouais, il y a plusieurs chemins. Il y en a pour qui c'est facilité, il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Voilà, moi c'était à la longue, j'avais pas spécialement les. Voilà, j'étais pas un puncher, voilà, j'étais pas. C'était pas KO sur KO, voilà, c'est au fur et à mesure. Moi, je suis un travailleur, hein, j'ai toujours dit. Hein. C'est, moi, pour moi, c'était, on va dire, le travail, brique par brique. Donc, ça, moi, ça a pris 10 ans.
Et tu devais définir ton style, ce serait quoi?
Moi, en fait, moi, j'aime beaucoup la boxe mexicaine. Tu vois, dans la boxe, il y a plusieurs styles.
Plusieurs écoles.
Plusieurs écoles. Et les écoles, c'est en fonction des régions, des pays. Tu vois, tu as l'école américaine, cubaine, tu vois, qui est très réputée,
ouais,
cubaine
très réputée,
et tout, mouvement et tout. Et japonaise, voilà, anglaise, russe, tu vois. Et moi, je kiffais grave, c'était la boxe mexicaine, tu vois. Tous les boxeurs mexicains, voilà, tous les champions mexicains, c'était. Je regardais, je m'endormais sur leurs vidéos, en fait.
D'accord.
Du coup, au fur et à mesure, tu vois, inconsciemment ou pas, je me suis imprégné un peu de, tu vois, de la manière de boxer.
Et c'est quoi c'est plutôt être.
C'est offensif,
rapide,
ouais, c'est offensif. D'accord. C'est un style offensif. Moi, voilà, c'est vraiment avancer sans prendre de coups, en fait. Être offensif et sur le contre.
D'accord.
Sans prendre de coups, bon voilà.
Et du coup, j'ai cru comprendre que tu étais entraîné dans plusieurs pays aussi, notamment en Angleterre, si
ouais,
je ne dis pas de bêtises.
En fait, ouais, une période, avec un pote, voilà, moi j'aimais bien m'entraîner. En fait, on aime bien s'entraîner à droite, à gauche, et notamment l'Angleterre. Donc en Angleterre, je suis parti plusieurs fois, plusieurs reprises en Angleterre, à Londres notamment. Donc Londres, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des salles à tous les coins de rue. Les salles de boxe, c'est vraiment... voilà,
c'est le pays de la boxe,
ouais,
là-bas,
tu penses ? Ouais, là-bas, il y a le fighting spirit, hein, comme on dit. Il y a des boxeurs, il y a des salles partout, les salles sont remplies, c'est du très très haut niveau en Angleterre. Donc voilà, bah, je partais là-bas m'entraîner, mettre les gants et...
Et est-ce que t'es parti un peu en...
Vivre un peu le truc, quoi.
T'es parti un peu en... Comment dire, pas en cachette, mais un peu discrètement, quoi. Je veux dire, tu t'es pas présenté là-bas comme un boxeur professionnel ou quoi que
non,
ce soit,
non. Après, on est arrivé, enfin, quand je me rappelle la première fois, on est parti là-bas, on est arrivé dans une salle de boxe, enfin, sur Internet, hein, tu sais, Google, la première salle, on est arrivé.
Vous n'étiez pas attendu, quoi, c'est ça que...
Non, on est parti comme ça, entre guillemets, avec nos sacs à dos, et on a pris je me rappelle, on avait pris une chambre d'hôtel avec mon pote Pierrot, on avait pris une chambre d'hôtel, enfin, tu sais, Airbnb, là.
Ouais.
Et voilà, ça a commencé comme ça, après, on restait longtemps, plus ou moins, enfin, un mois, trois semaines, deux semaines, ça dépendait, quoi.
Et c'est un kiff, entre guillemets, de faire de la boxe là-bas?
Ouais, franchement, en fait, tu vois, déjà, dès mon premier voyage, en fait, j'ai vu les choses différemment, en fait, et j'ai compris pourquoi les Français, sur le niveau, ça stagne au niveau européen, en fait, ça bloque au niveau européen et pas mondial.
On le dit pour beaucoup de sports.
Beaucoup de sports,
ouais. Ouais.
Nous, ici, on reçoit pas mal d'invités de beaucoup de sports. On le dit pour beaucoup de sports, notamment le foot. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que les Français n'aiment pas s'entraîner? Qu'est-ce qui fait qu'ils bloquent comme ça?
Je pense pas que ce soit au niveau de la mentalité des Français. Je pense plus que c'est plus au niveau de la mentalité de la France en elle-même, tu vois. Et tu vois, vis-à-vis du sport, comment elle considère, au fait, ses sportifs. Et la boxe, au fait, une fois que t'es professionnel, si t'as pas les moyens derrière financiers, c'est très très compliqué, au fait, de gérer une carrière. Et c'est peut-être, après, on pourra revenir sur mon cas personnel à moi. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait prendre du recul aussi sur la boxe, quoi.
C'est parce que tu t'es pas senti soutenu, c'est ça, à un moment donné, ou
en fait,
financièrement, suivi, je sais pas.
En fait, arrivé un moment, c'est simple. On n'est pas tous au niveau cas, dans le sens où on n'a pas tous un contrat d'image avec Canal+ et tout. 99% des boxeurs que je connais, ils ont un emploi à côté où il faut qu'ils fassent quelque chose à côté, donc c'est très difficile. En fait, au niveau mondial, ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs, ils s'entraînent en moyenne 6 heures par jour, tu vois. Donc toi, t'es là, voilà, moi, je travaille dans le bâtiment, donc je suis là, je travaille dans le bâtiment, je finis mon chantier à 17h. Je vais aller m'entraîner 2 heures par soir. Déjà, j'arrive à la salle, je suis fatigué.
Ouais, tu risques des blessures.
Voilà, j'ai des blessures. Je m'entraîne 2 heures par soir. Et en fin de compte, je vais boxer un mec qui s'entraîne 6 heures par jour, H24, qui fait que de la boxe.
Ouais.
Tu vois, c'est un peu. Ce qui, voilà, c'est pour ça.
En fait, tu jouais pas avec les mêmes armes, en fait.
Exactement. Après, je pense qu'on a deux bras, deux jambes. On a deux bras, deux jambes comme tout le monde. Hein. Si on donnait les mêmes moyens que ces boxeurs-là, on serait peut-être même meilleurs, tu vois, en France.
Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà.
Bah attends, on a sauté une petite étape quand même, parce que tu es boxeur professionnel. Donc à quel moment tu te dis, ok, je veux être professionnel dans ce sport, tu vois? Parce que c'est quand même un sport particulier. C'est quand même, tu es sur un ring, tu es avec tes poings, ta force, ton mental face à un gars, et tu es seul au monde face à lui, tu vois?
Bah en fait, y a, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, enfin partout dans le monde même, il y a la boxe olympique, entre guillemets la boxe amateur, et la boxe professionnelle. Moi, personnellement, ayant fait le tour de la boxe amateur, je ne me voyais plus continuer en tant qu'amateur.
Et tu avais quel âge à peu près ?
J'avais 23 ans. 23 ans. Et dans ma salle, en fait, à Elancourt, il y avait 5 ou 6 pros. Donc voilà, je mettais souvent les gants avec eux. Je m'entraînais souvent avec eux, que avec eux. Puis même le format de la boxe pro, c'était plus adapté au fait, à mon style de boxe. Parce que en boxe amateur, c'est 3 rounds. C'est 3 rounds de 3 minutes. Et voilà, ça débite, c'est la mitraillette. C'est celui qui met le plus de touches. Ça. Et boxe pro, c'est chercher à le coup dur vraiment à faire mal, quoi. Donc c'était plus par rapport à ça. Et puis,
c'est venu naturellement.
Ouais, voilà, c'est naturellement. Puis tu sais, il y a des salles, entre guillemets, où c'est soit pro, soit amateur. Donc à Elancourt, nous, c'était la boxe pro, Antoine Farrugia. Il formait que des professionnels, quoi. Donc tout de suite, hein, dès que j'ai commencé la boxe amateur, entre guillemets, je savais déjà que. Dès que je pouvais passer pro, bah,
ça serait le cas. Pro, quoi. Voilà. Tel chemin. Et pour arriver au titre, donc une fois que tu es passé pro, comment ça s'est construit en fait ?
Ça, c'est très compliqué aussi. Ouais.
Ton chemin à toi, mon chemin à moi, qu'il y en avait plusieurs.
Ouais, après, c'est le chemin d'un peu aussi, on va dire, tous les boxeurs, mais il y a des compétitions nationales, déjà. Il y a professionnels débutants, enfin, il y a ABCD. Il y a des compétitions nationales, et en fin de compte, au fur et à mesure voilà, qu'on boxe, on grimpe aussi dans les classements nationaux. Et puis arrive un moment, bah,
t'es le challenger,
on est challenger. Et puis voilà, moi, ça a pris 5 ans.
D'accord.
Alors qu'il y en a, ça prend un an et demi, tu vois.
D'accord, ok.
C'est...
Mais toi, tu t'es donné à 100% pour
ton sport. Moi, comme je t'ai dit, dès que je suis rentré de mon premier voyage d'Angleterre, c'était peut-être en 2014 ou 2015, je me suis dit, bah, moi, je vais me consacrer uniquement à ça. Donc, j'ai fait en sorte de faire que ça, financièrement et tout. Et arrive un moment, bah. Si ça suffit, voilà, si les revenus viennent.
T'as beau te donner, être motivé, voilà, etc.
Il voilà, faut remplir le frigo, quoi.
Exactement,
tu vois.
Oui.
La réalité te rattrape, comme on dit.
Et là, aujourd'hui, du coup, t'en es où ?
Moi, j'étais champion de France en janvier 2020. Donc, j'ai absolument voulu quand même disputer un titre de champion de France. C'est très, très important pour moi. Voilà, j'ai pas fait tout ça pour rien, entre guillemets.
C'est une consécration.
C'est une consécration. Voilà, moi, je savais que j'avais beaucoup de soucis à faire le poids dans ma catégorie parce que je faisais le même poids depuis. Depuis que j'ai commencé la boxe, pratiquement, j'ai fait le même poids. J'étais autour de 70 kilos. Donc c'était vraiment. Enfin, c'était de plus en plus compliqué.
Donc t'es welter, hein, c'est ça ?
Moyen.
Ah, t'es moyen.
Ouais, pour moyen, ouais. Okay. Voilà, moyen.
Oui, bien sûr, c'est vrai.
Et voilà, du coup, j'ai mon titre en janvier 2020. Et puis déjà, avant même de disputer. Enfin, voilà, avant même de faire mon championnat de France, je savais que j'allais prendre du recul par rapport à ça. Et voilà,
t'as une motivation différente du coup quand t'arrives au combat là pour le titre.
Ouais, j'étais un peu voilà, on va dire que j'ai pas disputé ce championnat de France dans les meilleures conditions, quoi.
John, vas-y.
J'ai une question. T'as disputé c'était ton combat pour le titre en janvier 2020.
Oui.
Juste avant le confinement, en fait.
Juste avant le confinement.
Ouais. Ma question, c'est est-ce que t'avais fait le tour des boxeurs dans ta catégorie en France? C'est pour ça que ça t'a un peu poussé j'arrête, il n'y a plus de challenge pour moi, au final je suis arrivé au sommet.
C'est pas du tout ça, c'était vraiment personnel, tu vois. C'était vraiment le fait que j'arrivais pas à lier ma vie de sportif et ma vie perso, tu vois, donc arrivé un moment, il faut faire un choix. Donc moi, ce choix, ouais, je l'ai poussé quand même jusqu'au championnat de France. Du coup, une fois que j'ai eu mon titre, bah voilà, j'ai bossé, voilà, bon, comme je travaille dans le bâtiment.
D'accord, ouais.
Donc, voilà.
Non, je pensais, je me suis dit, en fait, ma pensée, c'était, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui tu aurais pu accorder une revanche ou quelque chose comme ça ?
Non.
C'était plutôt...
Puis même dans tous les cas, je ne pouvais plus faire le poids. C'était mon dernier combat. Parce qu'en fait, peu de temps après, 3 semaines après, on m'a proposé un combat en poids moyen. Mais j'étais déjà monté à 80 kilos. J'avais déjà pris 10 kilos déjà.
Ouais, d'accord.
2-3 semaines après. Donc, et c'était un combat important en plus avec une belle bourse et un titre. Mais j'étais déjà remonté très haut en poids. Donc redescendre, ça m'aurait...
Du coup, t'as laissé ta ceinture vacante, c'est ça?
Ouais, j'ai laissé vacante, ouais.
Et c'est qui l'a repris?
C'est...
Il y a eu un combat pour
bah,
le
du coup,
titre.
Il y a eu le confinement, là, si on
il y a eu le confinement, puis voilà, c'est des, bah,
la
des
boxeurs entre eux. Difficile.
Ouais, des boxeurs entre eux qui sont boxés, puis voilà, il y en a qui a pris la ceinture.
C'est des boxeurs que t'as rencontrés déjà?
Non.
Enfin,
non,
dans un...
Mais c'est des boxeurs qui me... qui me...
Voilà. D'accord, j'ai compris.
T'aurais gagné, c'est ça?
Ouais.
D'accord, ok, je comprends.
C'est quoi, c'est des boxeurs qui t'évitaient, c'est ça?
Bah, je dirais pas ça comme ça, mais c'était pas des tueurs, quoi.
D'accord.
Ils ont profité du confinement de l'autre côté, peut-être.
Ouais, après... voilà, je sais pas, franchement. Mais non, en tout cas, c'était pas des boxeurs qui... je pense que c'est des boxeurs que j'aurais battus.
Et t'as pas pensé à monter de catégorie?
Bah si, mais monter de catégorie, effectivement, ça, j'ai pensé très tôt, mais comme je t'ai dit, il y a aussi la vie perso, tu vois. C'est-à-dire que tu montes de catégorie, mais ça va être plus ou moins le même problème. Je pourrais pas m'entraîner entièrement, on va dire.
Mais d'ailleurs, ça nécessite une autre forme d'entraînement, si tu montes de catégorie.
Non, pas spécialement, non. Après,
je veux dire, tu peux pas monter sur le ring comme ça.
Mais je pense, et Rachid va peut-être me confirmer que... Ta problématique, c'est ce que tu disais, c'est plutôt de perdre du poids, de rester dans la catégorie.
Déjà c'était ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en boxe anglaise, en fait, les catégories, elles sont pas beaucoup espacées. C'est-à-dire, c'est 2-3 kilos entre chaque caté. Ce qui fait que, voilà, au niveau de l'entraînement, il n'y a pas grand-chose qui change.
Tu te retrouves quand même face à des adversaires qui...
Un peu plus lourds, effectivement.
Qui boxent différemment.
Ouais. Mais moi, pour mon cas, je prenais 10-12 kilos. Donc, ça n'aurait pas été un souci, en fait, de redescendre dans la catégorie du dessus, quoi.
Et la suite, est-ce que tu as pensé peut-être à entraîner ou à reprendre une licence?
Entre-temps, je passais quand même mes diplômes d'entraîneur de prévôt fédéral, du coup, que j'ai obtenu. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, peut-être reprendre une licence en 2022, quoi.
D'accord. Pour dans un premier temps revenir.
Voilà, vu que je me suis stabilisé, on va dire, dans ma vie perso. Peut-être reprendre et voir ce que ça donne, tu vois. Mais une chose est sûre, c'est que je prendrai moins la boxe au sérieux qu'avant.
D'accord.
Ouais, t'as d'autres priorités.
Exactement.
Compris,
voilà.
Et quel conseil pourrais-tu donner à un jeune qui a quoi, 17, 18 ans et qui veut se lancer?
Va en Angleterre. Va en Angleterre. Non, sérieux, c'est franchement, radical. Le meilleur conseil, vraiment, le meilleur conseil pour un gars qui kiffe la boxe, qui veut faire quelque chose, c'est pas en France, tu vois.
Mais en Angleterre, est-ce qu'ils vont l'accueillir?
Ouais, ils vont l'accueillir. En fait, l'Angleterre, c'est le moins loin. Enfin, c'est à côté quand même, ouais, tu vois, l'Angleterre.
C'est
à peine 2 heures. Et puis voilà, c'est un niveau de fou. Et voilà. Il y a les structures, il y a tout. Il peut trouver un promoteur. S'il est bon, après, s'il est nul, faut qu'il arrête la boxe, tu vois.
Mais
si c'est vraiment un boxeur qui veut faire quelque chose dans la boxe et qu'il est bon, qu'il est en Angleterre.
Bah écoute, je te remercie, Rachid.
Plaisir.
Donc je rappelle, Rachid Hachoui, ex-champion de France de boxe anglaise des points moyens, qui était notre invité ce soir pour cette émission spéciale Sport de combat. On vous retrouve très vite. Merci Julien, merci John et à très bientôt.
Salut à toutes et tous.
Au revoir.
Au revoir.
Débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4, parlons sport.